Nous reprenons l'étude dans 1 Corinthiens 12 au verset 14. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il a voulu. Alors, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ou bien encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps entier, le corps de Christ, et ses membres chacun en particulier. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent.
Comme il y a un certain nombre d'enfants qui sont là, peut-être juste pour commencer, quand ils sont encore peut-être encore un peu attentifs, je pourrais juste reparaphraser ce passage, mais en expliquer que Paul, à ce moment-là, il va prendre une image très simple, même je pense qu'un enfant de 6 ou 7 ans peut réussir à comprendre. Et en fait, il imagine, c'est comme une sorte un petit peu de, on pourrait dire, de parabole, où il imagine à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui dit ça bien sûr, une sorte de dialogue entre différentes parties du corps humain. Et alors il imagine qu'il y a une main et un pied qui discutent entre eux. Et qui disent « Ah, mais moi, je suis la main, mais alors, en fait, je ne fais pas vraiment partie du corps, je ne suis pas le pied, alors je suis différent. » Et puis après, il y a le nez ou la bouche, il relie à différentes parties du corps, qui disent « Mais alors, moi, je suis, toi, tu es la bouche, ou toi, tu es l'oreille, alors moi, je suis que le pied, par contre, ou que telle partie du corps. Alors, ça ne compte pas, ce serait mieux d'être plutôt, je préfère être comme ça. » Et en fait, il montre que tous les chrétiens, tous les croyants qui appartiennent au Seigneur Jésus, eh bien, en fait, ils sont chacun différents, ils ont chacun un rôle, une fonction différente. Et vous voyez bien, en fait, le pied et la main, c'est pas la même chose, mais en même temps, c'est un seul corps. C'est une même personne, un seul corps. Donc, en fait, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Les deux sont complémentaires. La main, ça va avec le pied. Le pied va avec chaque organe va ensemble. Et un corps humain qui fonctionne, bah, il a besoin d'un nez, il a besoin des yeux, il a besoin des oreilles, il a besoin de ses mains. Et non seulement cela, en voyant après, mais il a aussi besoin de ceux qu'on voit pas, qui sont à l'intérieur. Mais on l'a un peu dit hier, s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas un foie, s'il n'y a pas des poumons, s'il n'y a pas des organes cachés, ça marche pas. Donc pour qu'un corps fonctionne, il y a besoin de tous. Chacun est différent, chacun a sa place. Vous n'êtes pas les mêmes, mais tous ensemble, vous faites partie d'un seul corps. Et il y a besoin que tous ces membres travaillent, fonctionnent, vivent ensemble pour que l'ensemble du corps soit en bonne santé, fonctionne bien. Parce que s'il y a une partie du corps qui fonctionne mal, eh bien, tout le corps va mal. Quelqu'un, s'il y a un pied qui ne marche pas, eh bien, on peut dire ce qu'on veut, on dit, il n'y a que le pied, le reste du corps va très bien. Mais si le pied ne marche pas, tout le corps est handicapé. Et la personne ne va pas pouvoir marcher. Si quelqu'un a ses oreilles qui ne marchent pas, il n'y a que l'oreille qui marche. Il n'y a que l'oreille qui ne marche pas. Mais ça va être un problème qui va paralyser tout le corps. Ou si quelqu'un est aveugle, on dira, ah, il y a juste les yeux qui ne marchent pas, le reste va bien. Mais quand on est aveugle, alors tout le corps, ça change la vie de toute la personne, en fait. Donc, c'est pour montrer que chacun est différent, une fonction, un rôle différent dans le corps, mais que tous sont complémentaires, qu'il y a besoin de tous et qu'il faut que tous vivent et travaillent ensemble d'une façon harmonieuse pour que tout le corps soit en pleine santé et puisse bien fonctionner.
Alors dans ces dialogues entre les membres qu'on trouve, comme Rémi l'a souligné, à partir du verset 14, on peut dire qu'on a deux groupes de questions qui sont posées et qui sont encadrées par deux versets qui sont très semblables. Verset 14, « Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. » Le corps n'est pas un seul, même si on a insisté beaucoup sur l'unité du corps, il y a un seul corps, mais un corps qui est composé de membres différents qui sont nombreux. Et donc, cette interrogation, si moi je ne suis pas œil, ben je ne suis pas partie du corps, etc. Donc là, on a plutôt un genre, enfin, les questions sont plutôt se dire parce que je vois d'autres membres qui paraissent plus importants, plus nécessaires, est-ce que moi, parce que je ne suis pas ce membre-là, je fais partie du corps, est-ce que je sers à quelque chose finalement? Donc, il y a cette question de regarder les autres dans le sens qu'ils ont plutôt que de réaliser que si Dieu m'a placé dans le corps tel que je suis, je dois accepter ce que je suis avec les capacités que Dieu m'a données et désirer être utile à ma place dans ce que tu m'as donné. Mais le danger, c'est de regarder à d'autres qui paraissent avoir plus de capacités que moi ou de choses qui se passent plus utiles, etc. Donc, toutes ces interrogations des versets 15 et 16. Et puis, conclusion assez vite, mais maintenant, Dieu a placé dans le corps, a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il a voulu. Chacun d'eux. Donc, chacun, chacune, nous avons pour Dieu de la valeur, une importance. Il nous connaît en détail, chacun personnellement, et c'est lui qui nous a placé dans le corps à la place qu'il nous a donnée comme il l'a voulu. Et c'est important qu'on ait relation personnelle avec le Seigneur, avec Dieu, réalisant que c'est sa volonté, c'est pas moi qui ai choisi, et donc je le reçois de sa main. Et puis ensuite, on a d'autres questions entre les membres. Enfin, on a... on reprend plutôt un peu ce qui a été dit à la première, au début. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. Donc, on retrouve un peu le même verset que le verset 14. Au verset 14, il était dit, car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Donc, on a la même assertion, en quelque sorte, importante, cette répétition qui est pas sans raison, en quelque sorte, de la part de l'Esprit de Dieu, de reprendre la même chose en disant, maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un, il y a toujours ce contraste entre l'unité du corps et la diversité des membres. Et ensuite, il y a donc une autre série de questions où là, on voit plutôt des membres qui pensent que d'autres membres ne sont pas nécessaires. Ils regardent à leur propre place, puisqu'il est dit, l'œil ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou bien encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc là, c'est une autre genre de dérive, de danger, c'est le fait que on considère ce que Dieu m'a donné à moi et je pense que les autres, ben, ils ont... j'ai pas besoin d'eux. Voilà. C'est l'autre, à cause de la... prendre en considération, disons, ce que Dieu m'a donné à moi et ne pas réaliser ce que Dieu a donné aux autres. Alors que justement, on a tous besoin les uns des autres. Et c'est donc là ce que l'Esprit de Dieu, enfin Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, souligne après, en montrant que même des membres faibles, eh bien, sont nécessaires. Et même que Dieu a pris soin justement de cet équilibre dans le corps, que de fait, s'il y a des membres qui sont plus faibles, moins honorables, eh bien, Dieu les environne d'un honneur plus grand, nos membres décents sont les plus parés, etc. Et Dieu a donné un plus grand honneur à ce qui en manquait, c'est bien un moment, au verset 24, « Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Et puis, or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. » Donc, on a aussi, comme Dieu avait, on avait vu au verset 18, Dieu a placé les membres chacun d'eux dans le corps comme il l'a voulu. on a aussi au verset 24, mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui a manqué, etc. Donc on voit qu'il y a chaque fois, on revient à ce que Dieu a fait, Dieu qui a placé les membres comme il l'a voulu, Dieu qui a même qui a composé le corps. Donc c'est quelque chose qui va encore plus loin, on voit que Dieu a pris soin, il sait pourquoi il a mis des membres plus faibles, d'autres plus en valeur, etc. Et comment il a lui-même donné un plus grand honneur à ce qui en manquait. Il y a donc un soin divin dans tout ce qui a été conçu par Dieu, préparé, composé, de façon à ce que le corps fonctionne harmonieusement. Si nous regardons notre corps humain, nous pouvons être frappés d'admiration comment fonctionne notre corps. C'est quelque chose qui est encore... Les spécialistes peuvent le voir encore mieux, mais de voir cette harmonie des membres qui sont tous fonctionnent de façon coordonnée, on peut dire, chacun à sa place, chacun ayant son utilité, etc. Tout cet équilibre qu'il y a dans les fonctions, dans différentes fonctions du corps, c'est merveilleux. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. Même, tout autant, même peut-être plus encore. On voit que Dieu a agi dans le détail pour que les services qu'il donne aux sœurs, les services qu'il donne aux frères, aux plus jeunes, aux plus âgés, à ceux qui ont le service public, certains peuvent avoir, même parmi les frères, même il y a des frères qui n'ont pas un service public, mais qui peuvent avoir un service de plutôt dans les contacts individuels, dans les contacts personnels, etc. Tout cela est nécessaire, il y en a qui sont plus en vue que d'autres, mais ayons bien la conviction que Dieu a composé les choses ainsi, et donc simplement à accepter la place que Dieu nous donne, à discerner aussi effectivement la fonction qu'il nous a départie, et à être chacun à notre place pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Et aussi, cette solidarité entre les membres, on l'a souligné, si un membre souffre, eh bien, c'est pas ma jambe qui souffre, c'est moi tout entier. Voilà, on est tous affectés par ce qui arrive à l'un des membres. Et pareil, si un membre est glorifié, il y a qui a des jalousies, etc., c'est lui qui est mis en avant, etc., non, tout le monde se réjouit avec lui, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est des choses assez, effectivement, que c'est simple à comprendre avec l'image qui est employée. Mais combien nous avons besoin d'y revenir en l'appliquant à ce qui nous concerne collectivement pour vraiment saisir le plan de Dieu et aussi les ressources qu'il nous donne, ayant la conviction que c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a préparé, c'est lui qui a tout fait. Est-ce qu'on peut souhaiter quelque chose de meilleur en quelque sorte que ce que Dieu a ainsi préparé?
Un enfant, si tu es tombé et que tu t'es écorché le genou, tu diras pas « mon genou a mal ». Tu diras « j'ai mal au genou ». C'est toi qui as mal, c'est pas seulement ton genou, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit cette tendance, en effet, dans ce premier questionnement, d'envier un peu ce que l'autre a reçu. Cet esprit de concurrence, de jalousie. Et nos cœurs peuvent, en effet, ambitionner des choses que Dieu ne nous a pas données. Si nous réalisons que le don que nous avons reçu est un don de grâce, c'est-à-dire quelque chose que nous ne méritons pas, et que ce qui est important, ce n'est pas l'importance de ce qui nous est confié, mais que nous soyons fidèles dans ce que le Seigneur nous a confié. On va reprendre ce verset si important dans la première épître au chapitre 4. Au reste, verset 2, 1 Corinthiens 4, verset 2. Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Bien, bon, et fidèle esclave. Voilà l'approbation du maître. Et il dit exactement la même chose à celui qui en avait reçu 2 comme à celui qui en avait reçu 5. L'approbation du maître n'est pas proportionnelle à l'importance de ce qu'il avait confié. Il donne son approbation à celui qui est fidèle. On parlait avec un frère tout à l'heure à la pause. Et en effet, je crois que c'est notre frère McIntosh qui parle. et qui dit « Si Dieu envoie un ange sur la terre, ça lui sera complètement égal de balayer une rue ou de gouverner un royaume. » Ça lui sera complètement égal. Nous, ça ne nous sera peut-être pas tout à fait égal, mais un ange pour lui, c'est pareil. L'important, c'est de balayer fidèlement. L'important, c'est de gouverner un royaume fidèlement. On est souvent frappé dans la parole comment Dieu souligne des choses qui nous paraissent sans importance. Je ne sais pas si on a déjà fait allusion à ce que faisait Élisée. Il versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors franchement, est-ce que c'est la peine de parler d'une si petite chose? Il versait l'eau sur les mains d'Élie. La parole se plaît à souligner cela. Une autre scène, c'est celle de Marie. Les disciples ont méprisé ce que faisait Marie. Pourquoi cette perte? Mais le Seigneur, lui, a apprécié ce que Marie a fait. Et nous nous arrêtons souvent au côté extérieur, alors que ce qui est important, c'est nos motifs et la manière dont nous avons accompli ce que le Seigneur nous a confié. Alors en effet, il y a ce, comme l'a dit Jean-Marc, ce danger d'envier. « Oh, je voudrais avoir ce don qu'il a reçu. » Il y a un mécontentement par rapport à ce que j'ai. Ou bien au contraire de mépriser. Bon, celui-là, c'est un frère de seconde zone. C'est une sœur de pas grand-chose. Oubliant, justement, que ce qui est important, c'est la fidélité. Quelqu'un a simplement pris pour l'assemblée sans que c'est son service. C'est la capacité. Peut-être personne n'en saura rien. Mais l'éternité, un jour, va révéler des choses pour lesquelles nous serons peut-être étonnés. Pensez, ce grand évangéliste qui a été l'occasion de grandes conversions. Puis peut-être quelqu'un qui a prié dans sa cuisine. Et puis Dieu évaluera les choses autrement que nous. Nous sommes si souvent, même Samuel y a cédé, regarder à l'apparence. Penser que ça, c'est un don. Et discréditer des choses qui sont faites dans le secret, mais que Dieu voit pour sa joie et pour sa gloire.
Il y a aussi un passage dans la parole qui nous dit « Un verre d'eau donné en mon nom à sa récompense. » C'est pas grand-chose. Un verre d'eau. Et en plus, on ne le voit pas dans ce passage ici, mais nous savons que tout ce que nous faisons pour le Seigneur aura sa récompense. Nous ne faisons que ce que nous avons à faire. Et en plus de cela, Dieu veut nous donner une récompense. Une récompense dans le ciel qui sera éternelle. Tout cela devrait nous encourager. Dans ce passage ici, nous avons les membres, deux catégories dans leur réaction. Versets 14 à 16, les membres disent « Je ne suis pas du corps. Je suis petit, je ne fais pas grand-chose, je ne fais qu'une petite chose, je ne fais pas partie du corps. » La deuxième catégorie, enfin la deuxième partie, ce sont les membres qui disent « Je n'ai pas besoin de toi. » Deux situations tout à fait différentes. Les uns pensent qu'ils ne font pas partie du corps. Les uns n'ont peut-être pas assez confiance en eux, mais c'est plutôt dans le Seigneur. Et les autres se croient très importants. Ni la première, ni la deuxième attitude n'est bonne. Nous ne devons pas nous dénigrer. Nous appartenons au Seigneur. Nous lui sommes chers. Il nous aime. Alors ne disons pas « je ne fais pas partie du corps ».
Une question, ou peut-être pour les plus jeunes. L'assemblée, c'est quoi? Est-ce que l'assemblée où je me réunis, est-ce que ce n'est que les frères qui parlent? Est-ce que ce n'est que les adultes? Est-ce que ce n'est que ceux qui sont en communion? L'assemblée, c'est tous les croyants, ceux qui ne sont pas en communion, comme les enfants qui ont donné leur cœur au Seigneur. Eh bien, chacun fait partie de l'assemblée, chacun est un membre du corps de Christ. Quel privilège! Quel privilège de savoir que nous faisons partie de ce corps. Et si je dis « je ne fais pas partie du corps », eh bien, en réaction, je ne vais rien faire pour ce corps, puisque je n'en fais pas partie. Or, nous savons que le Seigneur désire que nous utilisions nos capacités, nos dons pour le corps, c'est-à-dire pour nos frères et sœurs. La deuxième catégorie, je n'ai pas besoin de toi, c'est l'orgueil. On a déjà parlé. Ouf, moi j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai de grands dons, j'ai pas besoin de toi. Que c'est triste. Que c'est triste. Quand on est dans cet état d'esprit, c'est très mauvais aussi. Parce que l'orgueil, Dieu déteste l'orgueil. Et quelqu'un qui est dans cette situation, très vite il peut chuter. Mais dans ces deux circonstances, on pourrait se dire, celui qui dit « je ne fais pas partie du corps » ou celui qui dit « j'ai pas besoin de toi ». On pourrait aussi à un moment donné se dire « pourquoi est-ce que je vais encore dans l'assemblée ?» Je ne peux rien donner et j'ai besoin de rien. Et nous connaissons bien des croyants, malheureusement, qui, après un certain temps, ont quitté l'assemblée et restent à la maison. Ils disent « oui, mais voilà, moi, dans l'assemblée, il y avait des problèmes, moi, je reste à la maison. Je continue à m'occuper du Seigneur. Est-ce que c'est une bonne attitude ?» Il oublie une chose, c'est qu'il a besoin des autres. Et il oublie une chose, c'est qu'il peut apporter quelque chose aussi aux autres. Ce n'est jamais bon quand on quitte l'assemblée. Alors c'est clair, quitter l'assemblée ne veut pas dire quitter le Seigneur. Ne faisons pas l'amalgame. Mais il faut constater que la plupart de ceux qui ont quitté l'assemblée, quand on voit quelques temps après, quelques années après, la grande majorité ne va plus nulle part. Oui, certains au début sont allés dans une autre église, un autre rassemblement, disant « oui, voilà, c'est mieux ». Puis pendant un temps, ils ont continué. Et puis dans cette église où ils étaient, il y a aussi eu des problèmes. Et finalement, ils ont tout quitté. Alors non, quitter l'assemblée, c'est pas quitter le Seigneur. Mais le grand danger, et statistiquement parlant, la grosse majorité, s'écarte du Seigneur quand même. Alors, bien sûr, l'assemblée n'est pas toujours malheureusement un exemple. Bien sûr, il y a des membres qui sont plus difficiles à supporter que d'autres. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'amour. C'est l'amour qui nous unit. C'est ce lien qui est si important. C'est le Seigneur qui nous unit. Si j'aime le Seigneur, je dois aimer mes frères et sœurs, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, peut-être que moi, il y en a certains qui ont difficile à me supporter, moi. Mais n'oublions pas, nous avons chacun un rôle à donner dans l'assemblée, des plus petits aux plus grands. Donc ne dites pas, j'en fais pas partie. Je suis pas un grand frère, j'ai pas autant de connaissances. C'est pas une affaire de connaissances, c'est une affaire de cœur. Et gardons-nous de cet orgueil qui peut faire bien des dégâts aussi.
Par rapport au corps, effectivement, il faut se rappeler que chacun a bel et bien sa place en fait dans l'assemblée. Et je pense qu'une chose est utile, c'est de, des fois effectivement, on peut voir des frères qui sont des docteurs. On peut avoir envie de vouloir faire un petit peu comme eux, d'être des docteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le corps, chaque chose est à sa place. Par exemple, je sais très bien que moi, j'ai pas du tout le don de docteur. Et de la même chose, on peut pas dire aux pieds de faire le travail des mains. Si demain vous arrivez à marcher sur les mains, à faire la vaisselle avec les pieds, appelez-moi, je ferai une vidéo. Mais
Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a toute une sorte de dons ou de capacités différentes. Je sais que je ne suis pas un docteur, je ne sais pas exactement encore exactement ce que je suis, mais Dieu place des capacités en chaque personne. Et il y en a, par exemple, qui sont bien pour s'occuper de la... bête, mais c'est un service d'assemblée, s'occuper de la comptabilité. D'autres, ils vont avoir un travail au niveau de l'édification. D'autres, ils vont avoir un travail, pareil, on peut ne pas imaginer, pas forcément y penser, mais de faire des rassemblements, de faire des goûters, de faire des activités dans la réunion, en fait. Tout a exactement sa place, en fait, dans l'assemblée. Et surtout, il faut se garder de vouloir ressembler à ce frère qui prie si bien. À ce frère qui va nous édifier comme jamais. Et on a chacun nos capacités. Je sais très bien que je ne pourrais pas, je n'ai pas le don de docteur, je ne pourrais pas vous apprendre quelque chose de bien nouveau sur la parole. Mais je sais qu'aussi des fois, des docteurs n'ont pas le don d'évangélisation parce qu'ils connaissent tellement de choses qu'ils arrivent, c'est pas à parler simplement à des non-croyants. Donc c'est chacun ses capacités, il faut juste regarder à ce que Dieu nous donne nous-mêmes sans jamais envier non plus ce que les autres arrivent à faire.
Je te lire quelques passages d'abord dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 4. On va lire à partir du verset 46. Tous ceux qui furent dénombrés, Moïse et Aaron et les fils d'Israël dénombrèrent, à savoir les Lévites, selon leur famille et selon leur maison de père, depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui entrèrent pour s'employer à l'œuvre du service, à l'œuvre du portage de la tente d'assignation, et les dénombrés, verset 49, et on les dénombra selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Chacun à son service, chacun à son fardeau. Il y avait un service pour chacun, quel que soit le nombre. Il y avait un service pour chacun, un fardeau pour chacun. Un fardeau qui est assigné et un service qui est assigné. Il ne s'agit pas de regarder au fardeau de son frère ou bien de... Non, chacun avait son service personnellement. Et chacun avait son fardeau personnellement pour l'attente d'assignation, c'est-à-dire l'assemblée. Dans Romains chapitre 12, verset 4. Comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, écoute que tous les membres n'ont pas la même fonction. Voilà ce qui est dit. On a un corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe d'œuvre, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Voilà. Quelque chose qui est préparé par Dieu. Tu as préparé quelque chose pour chacun d'entre nous, afin que nous marchions simplement en elle. Et Dieu sait ce qu'il a préparé pour chacun. Notre place est de les discerner et d'y marcher simplement. Et rapprochons si vous ce verset de chacun à son fardeau. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce qui nous occupe là? Au début, nous avons quelqu'un qui n'est pas content de sa place. Et qu'est-ce que ça fait? Quand quelqu'un n'est pas content de sa place, il va faire forcément mal le travail que le Seigneur lui a assigné. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne lui a pas signé quelque chose, mais il va faire mal ce que le Seigneur lui a assigné au détriment de l'ensemble. C'est clair. Le Seigneur nous donne quelque chose à faire. Ben on ne le fait pas, mais on veut quelque chose d'autre. Et le second, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui, parce que le Seigneur lui a donné quelque chose qui le satisfait, il oublie sa place de serviteur, sa place au sein, et il dit, ben, les autres, c'est pas grand-chose. Aussi bien l'un que l'autre crée du désordre, amène un dysfonctionnement dans... Parce que, qu'est-ce qu'il a dit 10 secondes? On va le relire, c'est ce que nous avons là. Il a dit, ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Il ne peut pas, c'est impossible. Il ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi. C'est ce que nous avons au verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. C'est oublier les relations, notre fonction et la place que Dieu a assignée à chacun. Alors, nous avons besoin de discerner la place que... Comme il a été dit, justement dit, si nous oublions la place de l'autre, c'est que nous méconnaissons notre propre place.
Par rapport au fait de juger selon l'apparence, les capacités de l'un ou de l'autre, il y a un exemple que nous pouvons prendre dans l'Ancien Testament, les hommes forts de David. Il y a parmi ceux qui étaient employés par David, quelqu'un qui était de tout premier plan. Un homme ambitieux d'ailleurs qui s'appelait Joab, chef de l'armée, se jetait en avant. Eh bien, quand nous prenons dans le deuxième livre de Samuel, où il est parlé des hommes forts de David, donc ça c'est, on peut dire, l'appréciation divine, non pas que les gens voyaient Joab qui était là en avant, qui était toujours à la manœuvre, toujours en train d'agir. C'était un battant. Eh bien, il nous est dit que parmi les hommes forts de David, il y a un grand absent, c'est Joab. Mais nous lisons verset 37, « Télek l'Ammonite, Nakarsaï le Bérotien, qui... portait les armes de Joab. » Donc, celui qu'on oubliait complètement parce que il avait... Oui, pardon. C'est 2 Samuel 23, excusez-moi. 2 Samuel 23, verset 37. Nakarsaï, le Béhérotien qui portait les armes de Joab, fils de Tsiruya. Alors, quand on juge selon l'apparence, on dira, mais Joab, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Eh bien non, l'Esprit de Dieu retient celui qui portait ses armes, quelqu'un qui avait un rôle subalterne, si on peut dire. Un autre exemple qui se trouve dans le chapitre 25 de l'Exode. Je ne sais pas si vous êtes interrogé, pourquoi Dieu n'a pas fait un beau jour descendre dans le désert un tabernacle qui aurait été nickel? Parce que Dieu l'aurait créé, tout aurait été en proportion, tout aurait été parfait. Mais Dieu n'a pas fait ça. Le tabernacle, c'était la présence de Dieu. Vous voyez qu'on n'est pas loin de l'assemblée où nous nous réunissons autour du Seigneur. Nous sommes bien d'accord avec ça. Alors, pourquoi Dieu n'a pas fait descendre un jour, un beau matin, il se serait levé en cherchant la manne? Ah, ben voilà le tabernacle. Si nous lisons Exode 25, il nous est parlé de tous ceux qui avaient un esprit libéral. Tous ceux qui étaient disponibles. Tous ceux qui étaient prêts à servir. Tous ceux qui avaient la gloire de l'Éternel à cœur. Est-ce que nous avons cela quant à l'Assemblée? Et voilà des gens qui apportent. Il y a des gens qui apportent de l'or. Mais il y en a d'autres qui apportent du poil de chèvre. Excusez-moi la différence entre de l'or et du poil de chèvre. Eh bien, le poil de chèvre était tout aussi nécessaire que l'or. Dans le rassemblement, bien sûr, on a besoin de gens qui apportent de l'or. Justice divine. Et on a besoin d'argent, on a besoin de gens qui nous parlent de la rédemption, du rachat. On a besoin de gens qui nous apportent du bleu, des gens qui nous parlent du ciel. On a besoin de gens qui nous nous apportent aussi du coton blanc, qui nous parlent de séparation, de pureté, qui nous amènent des peaux de bélier teintes en rouge, qui nous parlent du sacrifice du Seigneur, de son sang qui a été versé. On a besoin de ça dans les rassemblements. On a besoin du poil de chèvre aussi. Et Dieu ne fait pas de différence en disant « Ouh, t'as apporté de l'or, c'est très bien, et puis toi, poil de chèvre, bon, allez, pose-le par là. » Non. Comment se fait-il dans nos rassemblements que ceux qui présentent prière, cantique du culte, sont souvent les mêmes qui exposent la parole l'après-midi, qui sont encore là pour parler en réunion de frères? Est-ce que ce n'est pas lié à notre faiblesse? Nous nous défendons d'avoir un clergé. Je pourrais vous raconter une histoire. Une personne qui avait parlé à quelqu'un, un croyant, et lui dit, mais tu vois, nous on se réunit comme ça, on n'a pas de clergé, on s'attend au Saint-Esprit, ça l'intéressait l'autre, ça m'intéresse beaucoup, je viens. Puis à la sortie de la réunion, celui qui était tellement intéressé a dit, Mais qu'est-ce que tu m'as raconté? Vous n'avez pas votre clergé? Mais si, vous avez un clergé. En effet, l'action avait été un, deux frères, et puis c'était tout. Alors bien sûr, il y a des choses liées à notre faiblesse. Nous n'établissons pas de clergé. Le clergé est venu comment? Le clergé est venu avec Constantin en 313, 312, 313. L'Empire romain, le christianisme est devenu religion d'État. Et vous avez vu affluer dans cette religion des millions de personnes. L'Empire romain savait organiser ses armées, on a organisé aussi l'Église. On a mis, comme dans l'armée, on mettait des centurions, on mettait des décurions, on a organisé, on a mis des évêques, on a mis des prêtres, on a mis... Mais ces choses risquent de nous arriver parce que Marc nous parlait hier des hyperactifs et nous parlait des hyperpassifs. Soyons exercés, peut-être pas pour nous demander quel don j'ai reçu, mais si je suis disponible, si j'ai à cœur que le Saint-Esprit puisse agir en moi, c'est pas à me demander est-ce que je suis prophète, docteur, non. Mais je donne ce que le Seigneur m'a donné. Pour une sœur qu'elle apporte dans la vie de l'Assemblée ce que le Seigneur lui met à cœur d'apporter, même si c'est très peu de choses. Dans notre corps, un organe qui ne fonctionne pas se nécrose. Se nécrose. Il meurt. Et nous savons bien, dans notre corps, Rémi nous en a dit un peu quelque chose, si vous avez votre foie qui ne fonctionne pas, des conséquences sur tout le corps. Vous aurez maux de tête, vous aurez plein de choses qui vont se développer. Ben oui. Eh bien, dans l'assemblée, c'est la même chose. Si je ne fais pas ce que le Seigneur désire que je fasse pour sa joie, pour sa gloire, eh bien, l'ensemble va en pâtir. Il y aura un dysfonctionnement dans le corps. Que le Seigneur nous donne d'aimer sa personne. Et si nous aimons le Seigneur, il n'est pas possible que nous n'aimions pas aussi ce qui est tellement cher à son cœur. Aimer l'assemblée. Aimer ses troupeaux, si petits soient-ils. Aimer ses frères et sœurs. Pas d'un amour humain parce que j'ai des atomes crochus avec lui, non. Mais comme le Seigneur nous a aimés. De cet amour divin. De cet amour qui a aimé des perdus, des difficiles, des méchants. Et c'est cet amour qui remplit mon cœur, eh bien, Dieu se chargera de m'employer pour le bien de son corps.
Le corps de Christ, quelle merveille, comme le corps humain. C'est un corps vivant, animé par l'esprit de vie. Et que nous puissions en vivre quelque chose. Mais il nous est dit ici, chaque membre a sa place. Et Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, Dieu a placé, verset 18, chacun d'eux, comme il l'a voulu. Déjà au verset 11, quand le Saint-Esprit distribuait les différents dons, il est dit, chacun comme il lui plaît. Et puis, à nouveau, au verset 28, Dieu a placé. C'est lui qui place, c'est lui qui confie, c'est lui qui donne. Alors pour nous, nous avons une responsabilité qu'il n'y ait pas de mépris, qu'il n'y ait pas de rivalité, qu'il n'y ait pas d'esprit de supériorité ou même d'esprit de sentiment d'infériorité. C'est pareil. Non, c'est ce que Dieu a donné que nous l'accomplissions fidèlement. Que pouvons-nous désirer, demander, sinon que chacun accomplisse à sa place la fonction que Dieu lui a départie dans l'humilité. Et cela conduira à l'harmonie, cette harmonie que le Saint-Esprit veut produire dans les rassemblements, dans le corps de Christ. Que nous puissions désirer profondément cela, afin que ensemble nous puissions croître, qu'il y ait cette croissance du corps. Et si il y a de la jalousie, s'il y a un esprit de supériorité ou un esprit d'infériorité ou de la rivalité, il est évident que le corps en souffrira. Et tout cela est dit, notons ce verset 25, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps. Ça veut dire qu'il y avait des divisions à Corinthe. Il n'y avait de Paul, d'Apollos, de Céphas, de Christ même. Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps. Chacun, il est dit en Philippiens 2, dans l'humilité, chacun considère son frère supérieur à lui-même. C'est pas facile, n'est-ce pas? On sent bien que parfois on a sentiment un petit peu de ce que nous sommes. Chacun regardant pas lui-même, mais à Christ, qui est en vous cette pensée de Christ. Et lui n'a pas cherché à plaire à lui-même. Bien-aimé, que nous puissions aussi, dans la diversité des dons, des fonctions que Dieu a, des parties à donner à chacun, rester simplement dans l'humilité à notre place, avoir à cœur de rechercher le bien. Et aussi, on verra peut-être plus en détail après, de prendre un égal soin les uns des autres. Un égal soin, prendre soin. Que Dieu nous accorde, encore dans ces temps difficiles de la fin, de goûter quelque chose de cette unité, de cette diversité, de cette harmonie, et que nous puissions en éprouver tout le bien, tout le prix. Je voulais donner, on a dit tout à l'heure un mot de Marie de Béthanie. Quelle est l'appréciation de Judas ou des disciples? Et quelle est l'appréciation du Seigneur? Juste en lisant ce verset de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, au verset 4 au milieu, quelques-uns s'indignaient, disant « À quoi bon la perte de ce parfum ?» 300 deniers. La femme était là, dans ce repas à Béthanie. Elle avait préparé quelque chose pour son Seigneur. Jésus la prend en sa défense. Pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Et puis verset 8, ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. Elle avait préparé cela dès longtemps, n'est-ce pas? Mon cœur était rempli de l'amour de son Seigneur. Et au moment favorable, au moment qui passe, il n'aura peut-être pas d'autre. Elle donne au Seigneur une joie infinie. Et lui-même peut dire ce qu'elle a fait. Ce que qui était en son pouvoir. Peut-être il n'y a pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup. Vous disiez ce qui est en votre pouvoir. Eh bien, faites-le. Faites-le pour le Seigneur, comme Marie l'a fait. Et le Seigneur Jésus, qui sonde les motifs, qui font agir le cœur, dire elle a fait une bonne œuvre envers moi. Et c'est vrai pour la place que nous pouvons, le service que nous pouvons accomplir chacun dans le rassemblement.
Je vais un peu répéter ce qu'on a déjà dit, mais verset 22, les membres du corps qui paraissent, c'est 23, que nous estimons. Il faut se méfier de ces appréciations. On peut se tromper. On le voit souvent d'ailleurs dans la parole, on l'a déjà vu dans certains exemples, on vient juste de le voir à l'instant. On peut se tromper dans ses appréciations. Le grand danger, c'est de se comparer. Quand je me compare avec les autres, soit je me décourage parce que les autres ont un don supérieur au mien, soit je suis orgueilleux et je pense que les autres, eh bien, ils me sont inférieurs. Donc la comparaison est quelque chose de très très dangereux. Quand on voit les membres qui sont donnés au verset 15, le pied, la main, l'œil, l'oreille, la tête, le pied, c'est des membres muets. c'est pas des membres qui s'expriment. Donc on voit que tous ces membres-là sont bien utiles dans le corps. Peut-être que je vais penser que toutes les personnes qui s'expriment pas, eh bien, sont inutiles. Non. Au contraire, la parole de Dieu me dit là, clairement, ces membres muets, eh bien, ils font partie du corps. Ils sont utiles à leur place. Parfois, on pense que quelqu'un qui s'exprime à la réunion, c'est quelqu'un qui a un don en vue. C'est pas vrai. Dieu n'estime pas les choses comme nous. Dieu dit, chacun est utile, qu'il soit muet ou qu'il parle. Et donc, attention à notre estimation. Attention à ne pas comparer.
On vient de chanter « Fais que ton serviteur te demeure fidèle ». On nous a rappelé que ce qui est requis d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Je voudrais lire juste un verset dans l'Apocalypse, au chapitre 17. Il s'agit de ceux qui sont avec le roi des rois. Verset 14. L'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Et un cher frère qui est auprès du Seigneur maintenant disait, nous sommes tous des appelés, nous sommes tous des élus, mais sommes-nous tous des fidèles? Un autre passage dans l'épître, première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, on nous a rappelé qu'il y avait des tensions dans cette assemblée. Au chapitre 4, les versets 6 et 7. Or, frères, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà. Il y a celui qui disait, moi je n'ai pas besoin de toi. Eh bien, qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Nous avons aussi chanté « Veuille m'animer d'un saint zèle ». C'est ce que le Seigneur désire, que nous ayons ce zèle pour lui. Et ce zèle, c'est dans le cœur d'abord. Et puis il s'exprime. Et en effet, combien ce sujet de l'assemblée des membres est important. N'oublions pas, nous disons souvent, oui, le Seigneur, comme l'apôtre Paul, le Seigneur m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et nous avons aussi ce verset, le Seigneur a aimé l'assemblée et s'est livré pour lui. Il aime l'assemblée. Et est-ce que nous aimons l'assemblée aussi? Nous avons, et encore nous adresser aux plus jeunes. J'ai connu un frère que je n'ai jamais entendu dans l'assemblée citer un cantique ou faire une prière. 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, je ne l'avais jamais entendu prier. Alors que ce n'était pas une très grande assemblée. C'est quand même triste. Je ne sais pas le pourquoi. C'était un frère qui aimait le Seigneur. C'est un frère qui assistait à toutes les réunions. Le Seigneur lui a fait la grâce que dans ses dernières années, il a vécu jusqu'à 90 ans, que vers la fin, il ait pu proposer des cantiques et s'exprimer. N'attendez pas. Alors, vous allez peut-être dire, oui, mais je ne sais pas, moi, citer un cantique. Oui, j'ai peur que ce ne soit pas un cantique par le Saint-Esprit. N'oublions pas que d'abord, cela commence par une communion
avec le Seigneur de tous les jours. Si je m'occupe du Seigneur tous les jours, en lisant la parole, pas en la lisant vite, lire la parole, c'est quoi? C'est entrer en contact, en communion avec Dieu, notre Père, avec le Seigneur Jésus. C'est ça la prière. On peut prier et notre prière n'est peut-être pas allée jusque-là. C'est s'adresser au Seigneur, avoir cette communion par la prière, par la lecture de la parole. C'est quelque chose que nous avons à cultiver tous les jours. Et lorsque nous sommes dans cette atmosphère divine tous les jours, eh bien, notre amour va devenir chaque fois plus grand. En lisant la parole, nous allons toujours plus nous rendre compte combien Dieu nous aime. Ce Dieu qu'on pense parfois très lointain, oui, ton Père, c'est mon Père, il s'occupe de moi. Est-ce que tu connais Dieu comme ton Père personnel, comme quelqu'un à qui tu vas dire tes secrets, comme quelqu'un à qui tu vas demander conseil, prendre tes forces? Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu de près. Et le Seigneur Jésus, qui est là comme notre bon berger, eh bien, voilà, cela commence par là. Et puis notre cœur, quand on va arriver au culte, eh bien déjà, on sera content d'aller au culte. Ou ce matin, lorsque vous êtes venu pour le culte, c'était dans quel état d'esprit? Par habitude? Parce que ça me fait du bien? Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont là que j'aime bien? Parce que j'aime bien citer des cantiques? Ou est-ce que tu es venu, sachant que c'est le Seigneur qui t'invite? Est-ce que tu es venu par ton cœur? Est-ce que ça a déjà commencé le samedi soir au moment de te mettre au lit? Est-ce que tu as songé que le lendemain matin c'était le culte? Est-ce que tu as songé avec plaisir? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié le samedi soir, le dimanche matin? Est-ce que tu as prié pour que le Seigneur dirige les frères par son esprit? C'est quelque chose que chacun peut faire. Et combien c'est important? Et toi, est-ce que tu es venu avec un cœur rempli du Seigneur, avec ce vrai désir de se retrouver ensemble avec des frères et sœurs autour du Seigneur? Eh bien, quand tu as ce désir, et tu arrives au culte, et puis il y a un moment d'honneur, et à un moment donné, je parle aux frères, tu as un cantique sur le cœur. Que je le cite, est-ce que je ne le cite pas? Je me rappelle de mes premières fois. Il y a le cœur qui bat. J'y vais pas. Et puis au début, souvent, on n'y va pas. Et puis parfois, ce n'est pas tout, mais parfois, c'est un autre frère qui cite ce cantique. N'est-ce pas merveilleux? C'est un signe que Dieu nous donne. Eh bien, il arrive un moment où alors, voilà, une fois qu'on a ce désir, eh bien, on cite le cantique. Et que c'est bien aussi pour des frères plus âgés d'encourager. Combien, en tant que frères âgés, que sœurs âgées, nous avons à nous encourager. La toute première fois que j'ai parlé, c'est une sœur âgée, je dirais, ce n'est pas avec mépris, une sœur insignifiante, on ne l'entendait pas beaucoup. C'est elle qui m'a encouragé. C'était pendant l'été, il n'y avait pas grand monde. Et voilà, le cœur qui bat, j'y vais pas, je suis pas capable. Puis voilà, l'amour du Seigneur qui nous pousse. Et puis une sœur qui dit, on a quand même été béni. Et souvent, ce sont des sœurs qui encouragent par une petite parole et parfois même par un regard. Lorsqu'on ne va pas bien, il y a des sœurs qui détectent cela. Et dans le regard, on lit questionnement, des questions, on lit la tristesse, on lit de l'amour, de l'affection. Et combien cela fait du bien. Chaque sœur peut faire cela. Alors c'est ainsi qu'on peut commencer à citer des cantiques. Il peut arriver que ce n'est pas toujours le bon cantique. Ça m'est arrivé aussi, j'ai cité le cantique et puis après je me suis rendu compte que j'aurais sans doute pas dû le citer. C'est pas grave. Dieu a vu, le Seigneur a vu que le cœur était là. Et gardons-nous toujours aussi de critiquer. Mais donnons cette envie de participer au culte. Alors les sœurs vont me dire, ouais, mais nous on n'a rien à faire. Mais déjà par la prière, priez. Combien de fois on ne s'est pas rendu compte lorsqu'une sœur s'en est allée reprise par le Seigneur. Il manquait quelque chose après. Il manquait, oui, une sœur de prière qui aimait l'assemblée. Vous les sœurs, vous avez un rôle important. Et quand je dis, quand un frère a un cantique sur le cœur, cela peut arriver à une sœur aussi. Est-ce que vous n'avez pas parfois eu le cas où le cantique que vous aviez en tête, un frère l'a cité? Vous pouvez prier au Seigneur aussi pour les frères, pour les jeunes. Aussi, il y a aussi certaines assemblées très peu nombreuses et où il y a un frère qui ne cite pas de cantique. Il n'y a qu'un ou deux frères ou trois et il y en a un. Bien, prions pour lui. Prions pour lui. Et prier pour l'assemblée. Et cela, nous pouvons tous le faire. Cela ne demande pas beaucoup de connaissances. Cela demande du cœur. Du cœur pour le Seigneur et du cœur pour l'assemblée. Et le Seigneur, il bénira. N'hésitons pas à dire non plus. Cela m'a encouragé lorsque, justement, plus jeune, et même moins jeune, lorsqu'on propose un cantique, et puis il y a un frère, il y a une sœur qui me dit, c'est le cantique que j'avais à cœur. Cela nous encourage. N'hésitons pas à le dire. Ou à tel frère, j'avais ce sujet devant moi, j'avais ce verset devant moi. Encourageons-nous les uns les autres. Nous avons besoin de ces encouragements. Les plus jeunes, mais les plus âgés aussi. Nous avons besoin de ces encouragements. Et n'oublions pas que c'est l'assemblée du Seigneur. Alors n'attendez pas que les années passent. Encore une dernière chose, peut-être vous allez vous dire, oui, je ne connais pas bien les cantiques. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons eu ce privilège de grandir dans l'assemblée. Il y a beaucoup de cantiques qu'on connaît déjà. Mais même les cantiques qu'on ne connaît pas bien, eh bien, pendant la semaine, prenez le temps de feuilleter votre choix. Et vous trouverez des cantiques qu'on cite peu. Eh bien, lisez-les, apprenez-les, retenez-les. Et c'est quelque chose qui peut se faire tout au long de notre vie. Il y a des cantiques qu'on chante très peu et qui sont où les paroles sont très, très intéressantes. On n'a plus l'habitude. Eh bien, lisons ces cantiques, pas pour forcément le dimanche d'après citer ce cantique-là, mais de nous nourrir ainsi et d'apprendre d'autres cantiques. Et qu'ainsi, chacun à un moment donné, eh bien voilà, il y a des cantiques qui m'ont fait du bien, il y a des cantiques qui m'ont parlé. Eh bien, le dimanche, le Seigneur mettra ce cantique devant moi, mais pour cela, il faut les connaître. Et c'est aussi un travail, un exercice que nous pouvons faire.
Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, j'aimerais citer un verset en 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 26. Qu'est-ce donc, frère? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. J'ai simplement souligné ce qu'il y a dans ce verset, donc adressé aux frères en rapport avec la réunion d'édification, que tout se fasse pour l'édification, mais ce qui est dit là, chacun de vous a. S'adresser aux frères, quand on vient à la réunion d'édification, est-ce que nous sommes dans cette conscience que nous avons cette exhortation devant nous? Est-ce qu'on vient avec quelque chose ou est-ce qu'on vient simplement pour s'asseoir et recevoir? Ici, il est dit, chacun de vous a. Effectivement, dans ces réunions, c'est là qu'il y a la place pour l'exercice de dons. Tout le monde n'a pas les mêmes dons, c'est vrai. Et si un frère a un don de docteur, on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y aura une place peut-être particulière pour ces occasions de présenter la parole. Mais quand même, il est dit, chacun de vous a un psaume. Voilà, seulement il y avait aussi des langues, etc. Mais peut y avoir justement quelque chose, peut-être pas grand-chose, un ou deux versets, mais ce fait d'avoir cet exercice de cœur pour venir dans l'Assemblée, non pas en ayant préparé à l'avance, je vais dire ceci ou je vais dire cela, mais cette préparation qui est, on l'a dit à la maison, de lire la parole, non pas des cantiques, mais aussi pour l'écriture, pour lire habituellement l'écriture et se nourrir de la parole, et puis ne pas arriver justement à vide, et puis d'être prêt justement à peut-être donner quelque chose que l'on a. Il semble ce côté, un côté important dans la vie de l'Assemblée, est-ce que je suis là pour apporter quelque chose ou je viens simplement pour recevoir? Quand nous regardons ce chapitre et d'autres dans l'Écriture, on voit qu'il est justement en question de notre responsabilité d'apporter quelque chose. En tant que membre du corps, nous avons une fonction à remplir fidèlement et donc d'apporter quelque chose pour le bien du corps tout entier. C'est ça notre responsabilité, notre exercice. Bien sûr, nous allons aussi recevoir et qu'il nous faut être prêts à recevoir ce que le Seigneur a donné par le moyen de l'un ou de l'autre. Et dans un corps humain, chaque membre reçoit quelque chose et apporte aussi quelque chose. Il ne s'agit pas non plus de... Il faut être prêt aussi à recevoir, à prendre de ses frères, de ses sœurs et de la disposition de recevoir des autres. Mais, voilà, est-ce que nous sommes simplement toujours dans la position de recevoir? Et en particulier au rayon d'édification, dans quel état d'esprit est-ce que nous venons? Il s'agit ici des frères. Mais on pourrait aussi l'étendre d'une façon plus générale dans tout ce qui concerne la vie de l'Assemblée, en dehors même des réunions. Est-ce que nous venons, est-ce que nous participons à la vie de l'Assemblée parce que nous allons recevoir des autres? Nous sommes simplement un peu comme des consommateurs, pour voilà, contents de recevoir. Ou est-ce que nous sommes dans une disposition d'apporter quelque chose? On sent bien, quand on revient quand on a des contacts avec des chrétiens, différents milieux chrétiens, etc., ouais, avec ce souci, on choisit une église dans laquelle on se sent bien, où on va recevoir, etc. Et on vient pour recevoir. Et est-ce qu'il y en a pour les jeunes, les telles tranches d'âge, les enfants, les femmes, les hommes, etc. Et bien, il y a des choses, des programmes un peu pour chacun. Et finalement, il y a tout quelque chose qui est préparé pour attirer finalement. Et chacun vient pour recevoir ce qui correspond ce qui est dans sa tranche d'âge, dans sa catégorie. Et ce qu'il est, voilà. Attention, et puis finalement, c'est là qu'il y a un clergé qui est mis en place, qui finalement est soutenu, payé, en quelque sorte, un peu pour apporter aux autres. C'est pas ça l'Assemblée. C'est la vie de l'Assemblée, c'est un corps vivant où chacun, effectivement, apporte et reçoit, bien sûr aussi, mais l'exercice qui est passé là devant nous, c'est qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Plus que de dire qu'est-ce que je vais recevoir. On voit bien, sinon on est là, on est toujours déçu. On vient pour recevoir, et bien on n'a pas ce qu'on attend, et on se plaint, on n'a pas ceci. C'est là que ça alimente facilement la critique. Évidemment, on est souvent déçu par les autres. Mais si au contraire, on a cet état d'esprit, chacun de vous a, et on vient pour apporter quelque chose, eh bien, ça nous exerce forcément. On n'est plus. Et c'est là qu'on sent aussi nos limitations. Enfin, on a parlé, on peut hésiter pour un frère à parler quand on est plus jeune aussi, on a tous connu cela. Mais en même temps, c'est un exercice salutaire, justement, de se tenir devant le Seigneur et d'être exercé à porter quelque chose, même des choses simples, justement. Et évidemment, on l'a rappelé, je crois, aussi au début de ces réunions, quand on s'exprime dans l'Assemblée, eh bien, forcément, on se dévoile un peu. Et on voit, on dévoile effectivement notre faiblesse, nos limitations, en fait. Et c'est plus facile de se taire en disant tellement je viens pour recevoir et puis personne ne voit ce que je suis réellement. Donc voilà, il me semble que c'est important de réaliser est-ce qu'il dit là, c'est très clair pour les frères, est-ce que je viens et chacun. Dans une réunion, des fois, on est peu nombreux, mais si chacun vient quand même à ce désir de cœur d'apporter quelque chose, bien le Seigneur sera donné par l'un ou par l'autre. Mais tout le monde ne va pas forcément exprimer ce jour-là. Mais enfin, même dans ce chapitre, il est dit au verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. » On est quand même surpris de voir que ce qui est dit là, ça ne veut pas dire que ça va se faire, effectivement, mais c'est à la limite possible qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Voilà, chacun peut apporter quelque chose, et après, il y aura même une place pour chacun pour apporter quelque chose. et de façon à ce que tous apprennent, que tous soient exhortés, édifiés. C'est ce que le Seigneur, en tout cas, veut produire. Et encore une fois, c'est surtout cette question d'attitude de cœur. Dans quelle attitude de cœur je viens? Est-ce que c'est pour apporter, avec, sentant bien ma faiblesse, mes limitations, prêt bien sûr aussi à recevoir des autres, ou est-ce que je viens seulement pour recevoir, étant là simplement de cette attitude un petit peu de consommateur, on vient consommer, mais est-ce qu'on vient vraiment aussi apporter en ayant conscience de notre faiblesse, mais aussi que les ressources sont pas en nous, mais dans celui qui est fidèle justement, et qui voudra donner ce qui répond aux besoins de l'Assemblée par son esprit.
Juste lire un verset sans le commenter, un verset bien connu dans Romains chapitre 1er. Verset 12. C'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre.
Pensée aussi qui est importante, c'est que notre don, notre capacité, c'est quelque chose qui nous appartient. J'y pensais tout à l'heure quand Alain a lu dans la première épître, toujours la même épître, quand il nous est dit qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Mais on ne le reçoit pas comme une propriété personnelle dont je dispose. Je le reçois pour les autres. D'ailleurs, dans le même chapitre, au début, il est question d'administrateur. Si vous êtes un administrateur, vous n'administrez pas vos biens propres. Vous administrez quelque chose qui vous est confié. D'ailleurs, dans Luc 16, il est question d'un administrateur qui doit rendre compte de ce qui lui est confié. Si c'est bien, il ne rend compte à personne. Il dit, c'est à moi, je fais ce que je veux. Mais là, nous avons à rendre compte aussi de quelque chose qui nous est confié. Et encore un exemple qui va dans ce sens-là, c'est que les trois serviteurs de Matthieu 25 qui reçoivent des talents, à qui appartient ces talents? Je vous le demande. Et qui en reçoit cinq, il dit, allez, c'est à moi. C'est un peu ce qu'a fait le troisième, d'ailleurs. Non? Il administre les biens de son maître. Quand le Seigneur nous confie un don, il ne nous le confie pas comme un bien propre dont je fais ce que je veux, mais quelque chose que j'ai à administrer pour le bien du peuple de Dieu, pour la gloire du Seigneur et pour le bien du peuple de Dieu. Ça paraît fondamental parce que nous ne sommes pas, c'est pas à notre discrétion ce que nous recevons. C'est pas j'en fais ce que je veux. Non. Le troisième, qui a reçu seulement un talent, il agit, il a fait comme si c'était à lui, je pouvais faire ce que je veux. Non. Nous avons à administrer quelque chose qui ne nous appartient pas en propre, mais que le Seigneur nous confie. Et ça donne toute la solennité dans le sentiment aussi que quand ce don, cette capacité s'exerce dans le rassemblement, nous sommes sur le terrain de ce qui appartient au Seigneur. Ça donne beaucoup de solennité au fait d'agir dans le rassemblement, c'est que nous sommes, pas chez nous, nous administrons quelque chose qui nous est confié sur un terrain qui est celui du Seigneur. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur à quelqu'un. Le Seigneur est plein de grâce, miséricordieux, il sait dans quelle mesure on a à cœur les intérêts. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des... On a parlé pendant ces deux jours de cette unité dans la diversité. Ce qui est important, c'est que tout converge. Tout converge vers quoi? Vers le bien du rassemblement pour que tout le monde soit bien à l'aise. Tant mieux si on est bien à l'aise. Mais ce que nous avons à chercher d'abord, c'est que le Seigneur soit glorifié. Il y a une posture qui est souvent perdue de vue. Ce n'est pas nous. Ce n'est même pas le troupeau. Ce n'est même pas... Nous sommes pour la gloire du Seigneur. Et dans la mesure où c'est le Saint-Esprit qui n'a qu'une seule préoccupation, si on peut s'exprimer ainsi, celui-ci, celui-là me glorifiera. Ce que j'apporte, et ça aussi je peux me le demander, est-ce que c'est devant moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va glorifier le Seigneur? C'est une question qu'on peut se poser. Et le Seigneur peut nous diriger. Encore autre chose, un petit mot. Est-ce qu'une réunion se prépare? On en a parlé un petit peu avec ce que Jean-Marc a dit. Est-ce qu'une réunion se prépare? Oui et non. C'est-à-dire, je ne vais pas à la réunion en disant « je vais leur dire ça ». On peut avoir, en arrivant à la réunion, mettons pour une réunion d'édification, quelques pensées, quelque chose qui remplit votre cœur, qui vous a peut-être occupé dans la semaine, mais là, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose qui m'a fait du bien dans la semaine que c'est forcément ce que je dois présenter le dimanche. Mais on a, c'est encore mon beau-père qui disait ça, on a plusieurs choses au feu. Et une vieille sœur qui est auprès du Seigneur disait, c'est un peu comme une ménagère. Si elle n'a jamais fait de course, il va arriver, il faut qu'elle fasse un repas, on pense à nos sœurs de Bordeaux, là, qui reçoivent beaucoup de monde en ce moment, si elle n'a rien dans ses placards, elle ne pourra pas faire de repas, elle ne pourra rien donner, elle ne pourra pas donner de nourriture. Donc elle a un certain nombre de choses qui sont là. Et ensuite, sur le moment, elle va dire, ben, maintenant, qu'est-ce que je prends? C'est ça la dépendance. Nous avons des choses, et le frère Louis Gibert, pour ceux qui s'en souviennent, disait, vous les jeunes frères, remplissez vos bocaux. Remplir nos bocaux. C'est-à-dire, avoir des choses, une connaissance de la parole, avoir étudié la parole. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, jeunes frères. Ça demande du temps. Ça demande de se casser de temps en temps les dents sur des versets difficiles. Ça demande aussi peut-être d'aller chercher ce qui a été écrit sur ces passages difficiles. Mais le Seigneur va vous bénir si le Seigneur sent que vous désirez entrer dans ses pensées. Et ça, cette manière de remplir ses bocaux, c'est un peu la ménagère qui fait ses courses. Au bout d'un moment, elle a ses placards pleins. Et alors, quand c'est le moment de faire un repas, eh bien, elle a des choses que elle va pas mobiliser avec sa propre volonté. Le frère va pas se dire « Oh ben j'ai ça ». Non, il va là dépendre du Saint-Esprit. Mais encore, on l'a dit, et je crois que c'est Rémi qui avait dit ça hier, c'est pas une illumination, je vais prendre Ézéchiel 35 que j'ai jamais lu, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses que j'ai mis en réserve, et alors ensuite elle prend un peu ici, elle prend un peu là, la ménagère, elle dit tiens, il me faudra aussi peut-être ça, et il faudra peut-être ça aussi, mais je l'ai en réserve. Elle ne pourra pas l'utiliser si elle ne l'a pas en réserve. Et nous aussi, c'est dans la mesure où nous connaissons, et pas seulement pour présenter la parole, mais pour tout service. Si je me tiens près du Seigneur, si j'ai un don de visite, ça peut très bien être une sœur. Nous, on a dans l'assemblée des gens qui ont un don de visite. Quand vous passez derrière, vous voyez que le Seigneur a fait du bien aux âmes par ce don de visite. Eh bien, cette personne-ci, elle a quand même, elle connaît la parole. Elle connaît des versets qui sont encourageants pour des personnes qui sont dans la peine. Elle vit dans la communion avec le Seigneur. Elle goûte les compassions du Seigneur pour elle-même. Et elle est comme l'apôtre Paul, béni soit le Dieu et Père qui nous console afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Il y a aussi une préparation. Alors, une réunion se prépare, oui, dans cette préparation du cœur pour être disponible entre les mains du Seigneur, mais d'un autre côté, si j'ai fait mon programme en disant j'ai à cœur de. Je vais leur dire ça et puis je vais faire ça, alors là, on est entièrement indépendant du Saint-Esprit. Qui veut donner au moment même ce qui est sa pensée, une parole dite en son temps. Combien elle est bonne. C'est tout le problème, vous savez, des amis de Job. les amis de Job, ils disaient pas des choses stupides, mais ils disaient des choses qui étaient inappropriées. Et en n'étant pas dépendant du Saint-Esprit, on peut dire des choses mais qui sont complètement inappropriées. C'est ce qu'ont fait les amis de Job. Ils ont dit des choses qui sont même reprises dans, justement dans les Corinthiens, chapitre 3, Eliphaz, celui qui prend les sages dans leur rue, c'est la citation du livre de Job. Mais quand Eliphaz la prononce, elle est hors de saison. Mais quand l'apôtre Paul la reprend, alors là, il la met bien à sa place. Qu'on a besoin dans l'assemblée, c'est pas seulement des choses justes. On a besoin que soit donné ce que le Saint-Esprit désire qu'il soit donné à ce moment-là. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans une grande faiblesse, c'est vrai, mais nous avons affaire à la miséricordieuse grâce de notre Seigneur qui veut nous aider dans ce temps de petites choses, malgré nos limites, malgré ce qu'on est, malgré notre indocilité, que nous ne lâchions pas cela. La liberté du Saint-Esprit, la dépendance du Saint-Esprit. On la vit très mal, sans doute, dans les rassemblements. Mais ne lâchons pas cette pensée. C'est fondamental. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse communiquer Christ au moment qu'il choisira pour être en bénédiction.
Et juste ajouter aussi un mot que dans une réunion, il y a bien sûr la responsabilité de ceux qui s'expriment. Ça a diminué, elle est là, on l'a rappelé. Mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui écoutent. Et plusieurs ont fait aussi bien des fois l'expérience. Si vraiment on a ceux qui sont là, qui vraiment ont soif, ont faim, qui vraiment demandent au Seigneur qu'il leur donne quelque chose, par le moyen de l'un ou de l'autre. Et même si c'est une réunion convoquée à la responsabilité d'un frère, par exemple, vraiment qu'il y a cet esprit de prière, de demander vraiment que ce soit ce que, qui répond aux besoins qui soient donnés, eh bien, on voit toute la différence. On peut dire qu'une réunion, elle dépend aussi beaucoup de ceux qui écoutent, de leur désir de recevoir, de leur prière. Et il y a aussi un rôle des sœurs très important, mais des frères et sœurs, tout le monde. Et mais ça, on se place ça sur notre cœur à chacun. Est-ce que nous avons à cœur, lorsque nous avons une réunion, de venir dans cet esprit de s'attendre au Seigneur, pas à celui qui est là ou à ceux qui sont là, mais s'attendre au Seigneur. Et effectivement, on l'a dit, notre faiblesse est très grande. Et si vraiment on s'attend au Seigneur, eh bien, on voit ce que le Seigneur peut donner. Moi, j'ai vu des endroits où il y a très peu de frères, beaucoup de faiblesses, mais des âmes qui ont soif, qui demandent au Seigneur, et on voit comment le Seigneur répond de façon extraordinaire même. Donc, ce mot d'encouragement aussi pour nous tous. Comment est-ce que nous venons à la réunion, et même si on a vu chacun a une responsabilité, mais il y a aussi l'autre côté, est-ce que nous venons pour vraiment en demandant au Seigneur qu'il nous réponde à nos besoins. Et là, le Seigneur est fidèle aussi, s'il y a vraiment des cœurs qui attendent, il saura répondre.
Et plus nous serons dépendants du Saint-Esprit, plus nous amènerons cette unité que le Seigneur a désirée, afin qu'il soit un. Il ne s'agit pas seulement, et c'est bien, on échange des lettres de recommandation pour montrer cette unité, mais dans le rassemblement local. Cette unité qui plaît au Seigneur et qu'il a désirée sera d'autant manifestée qu'il y aura cette convergence de tous ceux qui s'attendent au Saint-Esprit pour que Christ soit glorifié. Vous savez, ce matin, on a lu ce verset dans Philippiens 2, mais c'est très intéressant de considérer ce qu'il y a juste avant, ce que nous avons lu. Qu'il y ait en vous cette pensée, ça ne veut pas dire penser la même chose. Ça ne veut pas dire penser la même chose. Nous ne sommes pas réunis ensemble parce que nous avons souscrit un certain credo. Non. Avoir une même pensée, c'est pas penser la même chose. Et avoir un même sentiment, une même pensée, c'est avoir ce désir que le Saint-Esprit peut converger, qui peut amener par l'ensemble de son action pour que Christ soit glorifié. on se réunit ensemble, malgré notre faiblesse, avec une pensée qui devrait être toujours là, dans nos cœurs. Seigneur, il faut que nous désirons que tu sois glorifié dans la réunion. Pas d'abord qu'on soit bien, que le Seigneur soit glorifié dans la réunion. Et c'est quelque chose qui peut faire partir de l'exercice. J'ai ça à cœur. Est-ce que le Seigneur sera glorifié par ce que je vais donner? Ou bien est-ce que, non, je me cherche moi-même ou à me faire voir?
Que les membres aient un égal soin les uns des autres. Je n'ai pas dit cela au don particulier. Je n'ai pas dit cela au pasteur, au prophète, au docteur. Bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité, mais que les membres, chaque membre, aient un égal soin les uns des autres. C'est pas facile, n'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur nous invite à prendre soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous souffrent. Si un membre est glorifié, tous sont glorifiés. En Romains 12, l'apôtre disait « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». C'est facile, peut-être plus facile que pleurer avec ceux qui pleurent. Et pourtant, sommes-nous prêts à faire un petit peu cela? Peut-être notre frère, notre sœur, un jeune, est dans la détresse à côté de nous, dans le rassemblement où on est. On s'approche. Est-ce qu'on a un mot? Est-ce qu'on est une aide? Est-ce qu'on prend soin de notre frère, de notre sœur, d'un jeune qui peut-être part à la dérive? C'est ça, prendre soin. Et l'exemple de juste en Ézéchiel 34, n'est-ce pas? On connaît bien ce passage. Il y avait des pasteurs. Ils auraient dû prendre soin, justement. Et le Seigneur a dit au verset 4, vous n'avez pas fortifié les brebis faibles. Vous aurez des brebis fortes, peut-être toujours. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Voilà les pasteurs d'Israël. Peut-être nous avons participé à cela dans nos rassemblements, dans l'Assemblée de Dieu. Mais alors il y a une espérance. Il est dit au verset 11, « Mais voici moi, le Seigneur lui-même, je rechercherai mes brebis, j'en prendrai soin. Comme un berger prend soin de son troupeau, au jour où est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je prendrai soin de mes brebis. On voit que le Seigneur est celui qui prend soin de ses brebis. Le bon samaritain en Luc 10, n'est-ce pas? Il passe pas à côté comme le sacrificateur et le lévite de celui qui est tombé. Ça nous parle aussi d'une personne qui est loin de Dieu, mais le samaritain lui s'approche, il est dit, il soin, il s'approche et il prie soin de lui. Prendre soin. Et puis, le Seigneur Jésus, dans son entretien, en Jean 21, avec son disciple Pierre. À trois reprises, le Seigneur lui a posé cette question, m'aimes-tu ? Trois fois. Il nous le dit à nous aujourd'hui. M'aimes-tu ? Aimes-tu mon assemblée ? Aimes-tu mes rachetés ? Et le Seigneur, lui, Pierre dit, oui, je t'aime. Mais le Seigneur lui donne à trois reprises à peu près la même mission. Paie mes agneaux. Sois berger de mes brebis. Paie mes brebis. En prendre soin. Prenant un égal soin les uns des autres. En Galates 6, il nous est dit, portez les charges les uns des autres. Que nous ayons un petit peu cet esprit qui a animé le Seigneur. Cet esprit qui sûrement a animé l'apôtre Pierre quand il a été ensuite dans le service. Prendre soin. Pleurer avec ceux qui pleurent. Savoir aussi nous réjouir.
Simplement insister sur ce verset qui me parlait aussi beaucoup, cet égal soin les uns des autres. Bon, ça fait suite à un développement dont on n'a pas dit encore grand-chose. Je ne sais pas si peut-être des frères pourront. Je m'interroge parfois sur ces versets. Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait. Il semble qu'il y ait cette image qui est donnée avant de dire eh bien, dans le corps, il y a des parties qui naturellement sont agréables à regarder, sont décentes. Et puis, il y a des parties du corps, je ne vais pas faire des dessins, mais ben, qu'on va cacher, parce que ce sont des parties, on appelle ça parfois les parties honteuses, on engage, voilà. Mais il y a des parties du corps, et naturellement, dans toutes les cultures, ce sont des parties qu'on cache. Mais avec cette idée assez un peu étonnante, je trouve presque quand on lit que ce vêtement est là quelque chose qui va ennoblir, ça va être une parure, pas quelque chose qu'on cache parce que ce n'est pas bien. Cette partie de nos corps, elle est tout à fait nécessaire, elle est indispensable aussi, mais Dieu a prévu qu'il y ait un vêtement qui soit là comme une parure, plutôt pour l'ennoblir et la remonter, on peut dire, au même niveau que les autres membres qui, eux, sont des membres agréables à regarder et qu'on expose sans problème. Il me semble qu'il y a cette pensée-là qui n'est peut-être pas très naturelle lorsqu'on la lit. Parce que là, ce n'est pas cacher quelque chose de gênant, mais c'est ennoblir quelque chose qui, là aussi, est nécessaire. Même si peut-être en apparence, avec notre regard, naturellement, on aurait tendance à déprécier cette partie-là du corps, mais Dieu va dire, eh bien, elle va être parée hein, avec ce vêtement pour qu'on arrive à cette pensée ensuite à nouveau. C'est un peu cette conséquence. Dieu a composé le corps de cette façon-là et avec cette conséquence pour qu'il y ait à nouveau cette forme d'harmonie et d'égalité et pas de supériorité ou d'infériorité, mais qu'il y ait un corps qui est composé de membres où chacun a une place égale en valeur aux yeux de Dieu, égale en importance. Ça ne veut pas dire, on l'a déjà bien des fois, que chacun a le même rôle, la même fonction, mais égale en dignité, égale en valeur, égale en importance aux yeux de Dieu. Et Dieu voudrait que nous ayons, nous aussi, cette même pensée. Et dans cet égal soin des uns des autres, un peu à la suite aussi de ce que vient de dire Marc, il me semble que c'est important qu'on pense à cet aspect-là, parce que nos cœurs et nos habitudes nous amènent très facilement, peut-être c'est un danger qui est d'autant plus grand quand les rassemblements sont un peu plus importants en nombre, mais à faire un peu des sous-groupes finalement, et ça peut être par tranche d'âge, et finalement les plus jeunes sont bien ensemble, ont une vie sympathique ensemble, mais ont finalement très peu de contact avec les plus âgés parce qu'ils ont déjà un bon groupe, et voilà. Ça peut être peut-être par affinité, peut-être par des études, par des choses comme ça. Et il peut y avoir des raisons géographiques aussi, mais on peut bien facilement refaire un peu des groupes, et puis à ceux avec qui je m'entends bien, ceux que j'aime bien, puis aussi des affinités, ceux avec qui c'est facile, et puis à ceux qui, j'ai quelque chose contre eux, ils m'ont agacé, j'ai un peu de rancœur, et on se comprend pas, etc. Et facilement, on peut fonctionner extérieurement, quand on voit ça comme ça, on va dire tout a l'air d'aller bien, mais à la sortie, Ou dans les maisons, ça se passe pas comme ça, parce qu'on va critiquer certains frères et pas d'autres, parce qu'on va pas inviter certains, on invite toujours les mêmes, on n'invite jamais les autres, parce qu'à la sortie, on va pas se saluer chaleureusement, ou quand on peut pas faire autrement, on se croise, on se dit bonjour, et puis après, on va vite voir ceux avec qui on s'entend bien. Et quand on entre dans ce mode de fonctionnement-là, on n'a pas un égal soin des uns des autres. On privilégie certains et d'autres avec lesquels on a plus de mal. Et c'est quelque chose qui fait souffrir. Qui fait souffrir parce que on le voit, on le sent, parce que des enfants qui grandissent en rassemblement le voient aussi. C'est un témoignage qui est triste. C'est quelque chose qui va créer facilement de l'amertume. Et c'est aussi quand il est dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, on voit que le fait de ne pas avoir un égal soin les uns des autres est quelque chose qui amène une division, peut-être pas une grande division qui va faire que chacun va partir de son côté. Peut-être qu'en apparence, pendant des années, on peut aller dans le même local, aller aux mêmes réunions, mais dans les faits, il peut y avoir de la division dans le corps parce que nous n'avons pas cet égal soin les uns des autres, parce que nous fonctionnons par esprit de parti, parce que nous fonctionnons avec ceux avec qui on s'entend bien et qu'il y en a d'autres avec lesquels on a du mal et qu'on ne sait pas aller peut-être se parler pour régler un problème ou qu'on ne sait pas peut-être faire cet effort aussi de se dire ce frère, cette sœur avec qui c'est plus difficile, eh bien, demander au Seigneur qui m'aide à l'aimer comme il est. Et peut-être parfois, j'ai fait cette expérience et je suis sûr de ne pas être seul à avoir fait cette expérience. Peut-être parfois, il y a des frères, des sœurs avec lesquels, humainement, on se serait dit, on ne partage pas grand-chose. Franchement, je me souviens de frère qui a dit, oh, je passerai dans toute l'éternité avec lui, mais par contre, pas les vacances de Pâques. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, peut-être que quand on a fait cet effort d'apprendre à connaître, de parler avec lui, peut-être parfois de l'inviter, d'être invité chez eux, eh bien, on arrive sincèrement devant le Seigneur à aimer ce frère ou cette sœur. C'est pas une sympathie naturelle, c'est pas des atomes crochus qui font qu'on a les mêmes centres d'intérêt et qu'on a de l'affection parce qu'on sent que très vite on partage beaucoup de choses. Mais le Seigneur peut vraiment mettre dans notre cœur un amour qui n'est pas un amour forcé, qui n'est pas un amour artificiel, qui est un amour sincère pour ce frère ou cette sœur avec lequel humainement je ne partage vraiment pas grand-chose, mais il est mon frère, ma sœur en Christ et je ressens pour lui cette affection profonde qui vient du Seigneur. Et je pense que le Seigneur peut nous aider à ça, peut mettre ça lui dans notre cœur. Mais encore faut-il en avoir envie. Encore faut-il lui demander, encore faut-il désirer ça. Et si au contraire on entretient dans nos cœurs cette défiance ou cet agacement ou cet esprit de critique envers ces frères, ces sœurs qui ne plaisent pas, le Seigneur ne mettra pas cet amour dans notre cœur tout seul, je crois. Il faut que ce soit quelque chose qu'on lui demande, qu'on recherche. Et le Seigneur, quand on recherche quelque chose qui est selon lui, qui est selon sa volonté, alors le Seigneur produit ce qu'on recherche. Parce que c'est sa volonté et il le fera. Mais il faut lui demander, il faut avoir ce désir dans nos cœurs.
Vous connaissez, vous savez, le meilleur moyen pour aimer un frère ou une sœur qu'on aime moins. C'est facile. Priez pour lui. Si vous priez pour quelqu'un, vous pourrez pas avoir la colère pour lui ou de l'irritation. Priez pour lui. Et peut-être ce qu'il y a aussi à faire, c'est, avant de prier pour lui, prions pour que Dieu nous aide à supporter ce frère. Première étape, à supporter ce frère. Et puis à l'aimer. Et Dieu agira. Comme cela vient d'être, si nous recherchons cela, Dieu agira. Prions pour le frère que nous avons difficile à supporter. Comme aussi prions pour le frère qui présente la parole. On a difficile à le suivre. Prions pour que nous puissions le comprendre. Prions que Dieu l'aide aussi. Il y a des frères qui se lèvent. Ils n'ont pas un don pour parler. Et parfois, il n'y a personne d'autre. Prions pour lui. La prière, combien c'est important. La prière pour nous et la prière pour les autres. Et nous arrivons, nous avons lu, nous avons parlé d'une division. Une division, souvent, mène à la séparation. Ça peut durer un certain moment, et très souvent, ça mène à la séparation. Une division n'est jamais scripturaire. Nous ne voyons jamais dans la parole une division. Dans le Nouveau Testament, parmi les assemblées, nous ne voyons pas de division. Et pourtant, lisons dans
du livre des Actes. Livre des Actes au chapitre 15. Verset 2. Une contestation s'étant donc élevée et une grande dispute entre Paul et Barnabas d'un côté et eux. Quel résultat ? Ils se rencontrent, plein de frères. L'un parle, et puis un autre. Le résultat, pas de division. Nous devons bien reconnaître avec tristesse l'histoire des assemblées est une succession de divisions. Et quelqu'un disait encore récemment, entre l'avant-dernière et la dernière division, c'était exactement les mêmes causes, les mêmes choses qui revenaient. Nous n'apprenons pas. Une division n'est jamais voulue par Dieu. On pourrait dire oui, mais dans le cas où la sainteté de Dieu est bafouée, eh bien même là, une division n'est pas le chemin de Dieu. Si nous sommes dans un esprit où nous pensons qu'à la justice de Dieu, très vite nous pouvons oublier la grâce. Alors que faut-il faire? Faut-il laisser faire les choses? Non. Il faut prier. Prier sans cesse, dans le particulier, en famille, en assemblée. Un esprit de prière jusqu'au moment où Dieu rétablit les choses. Ça peut durer un certain temps, et souvent nous nous lassons. Mais il n'y a aucune raison valable pour qu'il y ait une division et qui mène à une séparation. On pourrait dire, je l'ai dit, c'est peut-être une affaire de sainteté. L'Église, et souvent les relations entre le Seigneur et l'Église, on voit l'image de l'épouse, d'un mari et de son épouse. Un mari ou une épouse peut avoir un conjoint qui n'est pas converti ou même qui est converti et qui mène une vie qui n'est pas la gloire du Seigneur. Est-ce une raison pour divorcer? Non. Pourquoi dans une assemblée on va jusqu'à cela? Alors que dans le couple nous comprenons que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais nous avons oublié, c'est de prier, c'est de nous attendre au Saint-Esprit. Lisons juste quelques versets dans cet épître aux Corinthiens qui nous parle de ces divisions. Cela commence au chapitre 1. Au verset 10. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage, à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais vous que soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Il n'y ait pas de division parmi vous. Nous l'avons vu dans notre chapitre ici. Lisons encore précédemment chapitre 11, au verset 18. Verset 18, car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. Et alors encore un dernier passage dans l'épître de Galates. Au chapitre 5. Au verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, ainsi de suite. Les divisions se trouvent au même niveau que ces choses-là, et ce sont les œuvres de la chair. Et on entend encore parfois dire, oui, il va peut-être y avoir là une division.
Jamais une division n'est voulue par Dieu, jamais. Mais nous devons prier, sans cesse prier, pour que Dieu fasse le travail dans les cœurs. Nous ne pouvons pas faire le travail dans les cœurs des autres. Mais nous pouvons premièrement nous attendre au Saint-Esprit qu'il fasse un travail dans mon cœur et qu'il fasse un travail dans le cœur jusqu'au moment où nous sommes tous unis dans la même décision. Dans la même décision à la gloire du Seigneur.
Par rapport à ce danger de faire des parties dans le peuple de Dieu, dans l'Assemblée, on a un exemple dans l'Exode, on se voit le travail de Satan qui dit « Mais vous y allez, mais sans vos petits-enfants, le mal est devant eux. » Vous trouvez ça dans Exode chapitre 10, « Allez, verset 8, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse dit « Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards. Nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec notre menu bétail, avec notre gros bétail, car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. » Toujours dangereux de trop partager le peuple de Dieu et dans l'Assemblée. Je ne dis pas que un enseignement spécifique pour les enfants, des activités, mais attention. Attention de ne pas que ça ne devienne pas un mode de fonctionnement. Nous avons, quelques années, eu un cas extrêmement grave dans le rassemblement. On n'a pas voulu l'exposer à tout le monde. Puis on a été quelques frères à se retrouver, à prier. Et on s'est rendu compte que, oui, mais ça pouvait pas durer. Parce que c'était une espèce de clivage, vous direz, c'est un bon motif. Oui, mais c'était quand même un clivage. Il y avait ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Il y a ceux qui priaient, il y a ceux qui ne priaient pas entre eux. Nous savons que le monde partage la société en tranches et nous avons besoin d'être vigilants quant à cela. Moïse dit, nous irons avec nos petits-enfants, nos vieillards, notre menu bétail, nous irons tous ensemble. Bien sûr, ça a été dit au début de ces moments cet après-midi, encore faut-il que dans les manifestations de la vie d'assemblée, en particulier les réunions, il y en ait pour tout le monde. Si je parle uniquement aux adultes et qu'il n'y a jamais rien pour les enfants, bien sûr, on ne fait pas de clivage dans le peuple de Dieu, mais il y a un clivage par ce qu'ils reçoivent ou ce qu'ils ne reçoivent pas. Je voulais encore donner une autre pensée, aussi par rapport à ce qu'a dit Rémi. Quel genre d'amour doit nous lier ? Je voudrais qu'on lise un verset dans Matthieu 5. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si c'est un amour, en effet, de sympathie humaine, fait rien de plus que les nations. Je parlais hier de clubs de philatélie, des clubs de moto. On a ça en commun, et puis c'est ça qui nous. Nous sommes invités, bien-aimés, à manifester un autre amour. L'amour de celui qui a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur. » C'était qui, leur? C'était ceux qui venaient de clouer sur la croix. C'était ceux qui l'avaient haï au point de le mettre sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et c'est dans la mesure où chacun de nous individuellement, nous serons nourris de cet amour-là, que nous ne pouvons pas produire. Personne, aucun. aucune nature humaine ne peut produire cet amour-là. Mais nous pouvons le puiser abondamment dans le cœur de notre Seigneur. Et c'est dans la mesure où cet amour-là, qui a aimé ceux qui l'ont cloué sur la croix, remplira notre cœur, c'est dans cet amour-là, c'est dans cet amour-là que nous pourrons aimer nos frères et sœurs. Ne baissons pas la barre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Et ça, c'est quelque chose d'inconnu, d'introuvable sur la terre. Des gens qui s'aiment de cet amour-là. Pas un amour comme les associations, mais ceux qui s'aiment, ils sont différents, ils ont des caractères opposés, mais ils s'aiment parce que l'amour de Dieu est versé dans leur cœur. Ne baissons pas cette barre. Et alors, lorsque quelqu'un peut respirer cette atmosphère, ça arrive pas souvent qu'on rentre dans nos locaux, mais si cet amour-là, on peut le respirer, alors il dira, Dieu est réellement au milieu de vous. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas de la terre. Cet amour-là, ce n'est même pas un caractère de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est amour. Dieu sera vu, Dieu sera réalisé. Vous savez, beaucoup de gens qui sont rentrés dans les locaux, ils ont dit, la plupart, ils ont dit, vous savez, de ce que j'ai entendu, j'ai rien compris. Mais j'ai une histoire là-dessus. Quelqu'un qui est rentré, il a dit à sa femme, je suis allé, mais j'ai rien compris. Mais il y a ce qu'on peut goûter, une atmosphère, quelque chose qui ne peut trouver nulle part sur la terre, où les gens aiment ceux qui les aiment. Un amour qui ne s'explique pas, mais qui se vit entre nous. Mettons la barre à ce niveau malgré notre faiblesse. Que nous puissions chacun de nous être nourris de cet amour du crucifié qui a intercédé pour ses amis. Et que cet amour-là, nous puissions le manifester vis-à-vis de ses frères, même qui nous sont contraires, de manière à ce que Dieu soit vu au milieu de nous, Dieu qui est amour.
On arrive à la salle. Et en rapport à ce que Benjamin vient de dire, aussi ce que Marc avait dit tout à l'heure, et ça m'en souligne ce qu'on voit en Luc 10. Ces deux versets que Marc a cités tout à l'heure, je voudrais clairement qu'on lise, concernant cette parabole du bon samaritain, Marc a rappelé l'exemple que le Seigneur nous donne quand il use de compassion envers celui qui est tombé là, entre les mains des voleurs. Mais il y a aussi la suite, on voit comment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris soin de lui, mais il l'a amené aussi, verset 34, l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Frères et sœurs, on sent bien que cette image de l'hôtellerie, ça nous parle de l'assemblée. Le Seigneur veut conduire celui qui est ainsi tombé entre les mains du voleur, il le confie à l'hôtelier dans l'hôtellerie. Bien ces images, l'hôtellerie, image de l'assemblée, l'hôtelier, image du Saint-Esprit, qui agit là, et avec ses 2 ressources, ses 2 deniers, prend soin de celui qui est. Là, vous voyez, on a été occupé des dons. Différents dons, des dons différents. Mais il y a aussi, comme Benjamin l'a souligné, ce qui va être donné comme soin dans l'hôtellerie sans qu'il y ait un don particulier. Quelquefois, c'est vrai, on souhaiterait qu'il y ait des dons, davantage de dons de pasteurs, de ceux qui prennent soin des âmes. Mais effectivement, souhaitable qu'il y ait des frères qui soient vraiment ce don de prendre soin des âmes, de répondre à leurs besoins. Mais il y a quelque chose qui est notre responsabilité à chacun, à tous, dans l'assemblée locale. Et on revient à ce verset aussi cité par Marc tout à l'heure, en Galates 6, qu'on peut relire aussi complètement, avec ce qui est dit aussi ensuite. Galates 6, là, il n'est pas question de dons,
Mais il est dit au verset 2, « Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. » Là, il n'est pas question de don, mais « Portez les charges les uns des autres. » Marc a bien souligné tout à l'heure, voir les besoins à côté de nous. Et puis il y a ceux qui peut-être viennent aussi, sont amenés dans l'assemblée des... ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur jusque-là, etc., comment est-ce que nous le recevons, est-ce que nous sommes exercés pour cela? Il y a bien sûr des dons spécifiques, le Seigneur connaît, mais il y a ce côté aussi de chacun, d'être exercé chacun à prendre soin de ceux qui sont là, qui sont amenés là, de ceux qui souffrent, de ceux, ayant un égal soin les uns des autres, si on l'a vu. Comment est-ce que nous vivons cela? C'est quelque chose qui m'atteint beaucoup, je reconnais qu'on est personnellement mes défaillances, nos défaillances, combien on sent de faiblesse. Mais c'est ça la vie de l'Assemblée aussi. Donc il y a les dons, il y a finalement ce que chacun confie ce que le Seigneur confie à chacun, mais il y a aussi cette responsabilité de chacun porter les charges les uns des autres. Ça, c'est demander à chacun. Est-ce que nous avons à cœur de voir ses besoins autour de nous et de laisser le Seigneur y répondre? Mais cette exhortation est accomplissez la loi du Christ. Qu'est-ce que c'est cette loi du Christ? Est-ce que ce n'est pas justement ce que le Seigneur a accompli, le bon samaritain, ce qu'il a fait à l'égard de cette personne? Ce n'est pas cela, accomplir la loi du Christ, comment lui agit, comment il a... C'est ce modèle qui nous est donné d'accomplir cette loi du Christ. Ça suit sur nos cœurs aussi, à chacun, à chacune. Combien se sent faible, mais c'est ce Seigneur place devant nous, il veut nous conduire dans ce chemin qui a été le sien. Et vous désirez que maintenant, dans l'Assemblée, ces choses soient réalisées à sa gloire et pour le bien des âmes.
On peut dire que c'est ce que propose Paul à la fin de notre chapitre, tout ce qui vient d'être dit. Je vous montre encore un chemin bien plus excellent, c'est le chemin de l'amour les uns pour les autres.